Alors, donc je merci, je vais discuter à partir de ces interventions, mais je ne vais pas discuter chacune de ces interventions, hein, d'autant plus que je n'ai pas eu tous les textes, donc je brandis l'excuse aussi. C'est-à-dire que j'ai eu en fait deux textes et une présentation PowerPoint et un résumé. Alors, mais voilà, du coup, c'est vrai que je n'ai pas eu la même possibilité aussi de réagir. Voilà, donc ce sera inégal, j'en suis désolée, c'est comme ça, mais je suis sûre que les interventions aussi de la salle aussi permettront peut-être de rectifier un peu les choses. Alors, je vais commencer par la présentation de Claire Baudelet, en mettant, non, je ne vais pas faire le clown, mais un peu les pieds dans le plat, en fait, puisque j'ai cherché l'intersectionnalité. Et alors, moi, je l'ai pas trouvé, sauf peut-être à entendre qu'il y a à l'entendre d'une façon donc différente, hein, que celle dont on a parlé ce matin et dont il est question dans d'autres communications, c'est-à-dire peut-être à concevoir, mais comme la rencontre ou l'interpénétration entre un milieu hospitalier, là en l'occurrence hospitalier, donc de travail très régulé. Très normé et un autre monde professionnel, les clowns, des comédiens, qui eux sont apparemment plus libres, hein, ou en tout cas, on voit qu'il y a quand même, voilà, là, une rencontre de deux mondes, hein, qui sont pas socialisés et normés de la même manière, en tout cas. Et donc, ça m'a semblé être une belle occasion de réfléchir sur les normes de la relation de service et la place qui occupe les émotions. Puisque, bien sûr, avec la question de l'humour, c'est bien de ça qu'il s'agit. Mais aussi, j'aimerais quand même suggérer de mettre dans l'analyse un peu plus de rapports sociaux. Parce que, bah, évidemment, alors ça pose des questions vachement intéressantes, ces clowns, hein, c'est-à-dire des questions que vous avez posées. Au service de qui sont-ils? Est-ce que c'est au service des enfants ou des soignants? Ce qui ne s'oppose pas nécessairement, mais ce qui peut être dans certains cas, à certains moments, en tension, parce que les clowns, alors je suis pas forcément sûre de ce que j'ai compris, mais ne se définissent pas comme des soignants, hein, c'est-à-dire qu'ils accompagnent le soin parfois, mais ils résistent aussi à l'instrumentalisation dont ils peuvent être l'objet aux côtés des soignants. Donc j'aurais voulu peut-être en savoir plus sur comment ils se définissent justement sur et sur les rapports de pouvoir entre les clowns, les médecins, ou par rapport aussi aux autres soignants, aux familles, etc. Voilà, ce qui est évidemment à mettre aussi en relation avec ce que vous avez pointé, la dimension parodique du pouvoir qu'ils incarnent, qu'ils mettent en scène, avec cette critique un peu carnavalesque du pouvoir. Bon, alors, mais il n'en reste pas moins qu'il y a sans doute quand même du pouvoir qui s'exerce et des rapports sociaux. Même si on a quand même affaire, alors là, aussi par rapport à ce qui a été évoqué sur la disciplinarisation des corps dans les services, là, on a des corps très indisciplinés. C'est apparemment, hein, puisqu'ils sont dans la transgression, ils se moquent des règles. Sans les mettre en question, parce qu'ils peuvent pas non plus, voilà, ils sont quand même dans un cadre qu'il s'agit bien de respecter et de maintenir, hein, mais voilà, ils sont à la fois dans cette transgression et dans cet accompagnement, ce qui évidemment est pas forcément très simple. Et ce qui m'a voilà intéressée, c'est que quand même ils sont du côté des émotions réelles. Pas du côté du prescrit. Alors, il y a forcément voilà, il y a forcément aussi des normes affectives, hein, mais on voit bien, et vous le montrez très bien, que ils se saisissent aussi voilà, ils prennent les émotions à la fois comme finalité, c'est-à-dire qu'il s'agit bien de produire des émotions sereines chez l'enfant qui est en train d'être soigné ou de le divertir, et en même temps, ils sont vraiment à l'écoute des émotions réelles, parce que c'est avec ça qu'ils travaillent. C'est aussi des occasions, comme vous le montrez bien, à travers aussi l'improvisation, hein, dans l'impro. Et du coup, je trouve que c'est effectivement intéressant, parce que c'est aussi une, enfin, il y a d'ailleurs, je crois, un des personnes que vous avez interviewé qui dit aussi que c'est quand leur intervention au clou n'est pas prévue, hein, qu'elle n'est pas définie en avance, que ça marche le mieux. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une résistance à l'instrumentalisation de ces intervenants externes par l'organisation. Du coup, ça pose la question aussi de est-ce qu'ils sont condamnés à rester en marge de l'organisation et comment s'intégrer, enfin comment pouvoir les intégrer ou intégrer cette fonction, en tout cas cette ouverture aux émotions à l'intérieur d'une organisation. Voilà. Je voudrais aussi aborder dans un autre métier, dans les métiers des pourvoyeuses du Caire, étudiés par Effie Macridou, hein, qu'elle montre que voilà, à travers donc différentes configurations d'emploi, donc des pourvoyeuses de Caire à domicile, en EHPAD, qu'elles ne subissent pas le même asservissement. Asservissement que tu décris bien, notamment en termes de racisme qui est très présent. On a parlé aussi ce matin des insultes, de l'agressivité qui font mal, hein, et de comment se prémunir aussi pour ces professionnels. On a parlé de la question de la formation et aussi de qui ça vient en fait et comment c'est vécu. Et là, effectivement, tu rencontres aussi cette question-là, puisque quand ce sont des insultes qui viennent de personnes âgées, mais on a parlé aussi d'enfants, qui sont donc jugés comme non responsables. Ça blesse, hein, tout autant, peut-être sans doute, hein, mais c'est excusé. Hein. Il y a quand même apparemment une rationalisation, hein, qui est opérée. Voilà, c'est pas de sa faute. Donc on est là dans le registre émotionnel de l'amour blessé, c'est-à-dire que voilà, c'est quand même très évidemment blessant quand on y met autant du sien, il y a un attachement, hein, de recevoir ça, mais c'est peut-être encore plus violent lorsque ça vient de la famille, hein, comme tu le montres dans certains de tes exemples, où ce mépris, ces insultes sont exprimées par des gens qui n'ont pas d'excuses et qui est là donc et du coup considéré à juste titre comme du mépris social. Et donc là on est dans un autre registre émotionnel qui est plus politique et qui génère peut-être d'autres affects, plus dans la colère. Voilà, donc je trouvais que c'était intéressant de mettre ces... Voilà, comment s'exercent ces rapports sociaux selon l'origine, en fait, et selon aussi les émotions que ça peut susciter et qu'on pourrait peut-être creuser plus. On voit que le mépris va très loin, hein, puisqu'il va jusqu'au déni de la personne, de ses affects, hein, l'interdiction que tu cites à un moment donné de se rendre à l'enterrement de la personne âgée, hein, qui est faite par la famille. Personne âgée décédée, la pourvoyeuse de Caire, on lui interdit de venir à l'enterrement. Donc c'est... Et peut-être de manière plus banale, mais tout aussi problématique, le mépris social qui s'exerce à travers l'ingérence dans le travail, qui met en cause le travail au moins de deux manières, à la fois dans la redéfinition du périmètre de l'activité. Alors on sait bien... Dans tous les services, comme les frontières sont assez souples, hein, je viens pour faire un peu de ménage et pour m'occuper de la personne âgée, mais bon, après, quand le ménage, ça fait beaucoup de ménage, voilà, comment on met la frontière. Donc, dans le périmètre de la définition du périmètre de l'activité, et aussi une remise en cause du travail, dans la mise en cause des savoir-faire, hein, qui sont déployés par ces pourvoyeuses du Caire. Avec des enjeux qui sont non seulement en termes de domination de classe, hein, quand la famille vient dire ce qu'il faut que le vieux mange alors que bah, ils sont pas là au quotidien, hein, mais aussi avec tous les enjeux affectifs que ça charrie et qui s'expriment aussi par ce biais, qu'on peut retrouver aussi dans les métiers d'assistante maternelle avec des enfants, hein, et la question en fait, qui est le plus proche de cette personne? Est-ce que c'est la nounou? Est-ce que c'est la mère? Est-ce que c'est là la fille de la personne âgée? Ou est-ce que c'est la pourvoyeuse du cas? Qui connaît mieux la personne? Qui est légitime pour dire comment s'en occuper? Avec là, ben, les affects de l'amour, la jalousie, la culpabilité aussi. Qui irriguent, se déversent ou sont canalisés, enfin, je peux peut-être irriguent peut-être, les rapports sociaux, tout autant de services, de classe et de race et parfois de sexe, avec l'idée que les affects donnent chair aux rapports sociaux et qu'on peut penser peut-être que les enjeux affectifs sont encore plus présents quand il y a intersectionnalité et que la mise à l'écart des émotions dans les rapports de travail hein, qui sont induits par la professionnalisation, le professionnalisme hein, qui est dans la distance aux émotions, ça c'est des choses qui ont été dites aussi, l'injonction à, voilà, à cette distance, à cette bonne distance, etc., pour être pro. Hein, donc cette mise à l'écart des émotions qui attise peut-être la cristallisation des rapports sociaux et la dureté des rapports sociaux. Donc il me semble que le rôle des émotions, même lorsqu'elles sont tues, hein, et peut-être d'autant plus aussi qu'elles sont tues, voilà, doit être considérée hein, dans les espaces de travail où la domination a à voir aussi avec la domination émotionnelle qui exerce une normalisation. On n'a pas discipline des corps, mais voilà, une normalisation aussi des affects. Patricia Paperman, dans un colloque il y a quelques années, parlait de normalisation avec un accent circonflexe sur le A. Donc des règles affectives dont on sait depuis Child, voilà, en tout cas qu'elles diffèrent selon les personnes, selon leur statut, le fait de ne pas avoir le droit de pleurer au décès de la personne âgée ou de la colère qui peut être autorisée chez l'employeur mais pas chez l'employé, évidemment. Et donc cette idée que les émotions ne sont pas seulement agies, c'est-à-dire aussi régulées, déterminées socialement, mais qu'elles agissent aussi et qu'elles ont des effets. Effet à la fois affectif, c'est-à-dire que les émotions elles-mêmes génèrent des émotions, et qu'elles nourrissent, mais aussi des effets politiques dans la domination. À partir du moment où dans la sphère du travail, il y a aussi donc à la fois un grand déni des émotions, hein, tout le management quand même est dans une distance avec les émotions qui est très très forte, et dans la mesure aussi une dévalorisation des émotions, et qui va avec une dévalorisation de ceux qui sont censés être émotifs, et donc évidemment les femmes, les classes populaires, les personnes qui sont en bas de l'échelle sociale, etc. Donc ces personnes-là seraient elles-mêmes dominées par leurs émotions, ce qui justifierait qu'elles soient dominées socialement par ceux qui, eux, hommes blancs rationnels et dirigeants, seraient dans la maîtrise émotionnelle. Donc voilà, je voulais peut-être conclure sur la question des émotions qui sont souvent vues comme un risque. Hein, ça fait partie, ça a beaucoup été pointé hein, dans la relation de service, dans les relations de service, le fait que les clients hein, pouvaient générer des émotions, produire des émotions négatives qui constituent du coup un risque pour la santé. Donc c'est présent dans le rapport Golac, hein, il y a pas mal de questions sur la relation de service, donc vue comme un risque, hein, la notion de risque émotionnel, qu'on va d'ailleurs aborder dans un autre colloque la semaine prochaine, qui s'appelle « Réinterroger la pertinence de la notion de risque pour aborder la santé au travail et le travail ». Donc voilà, risque émotionnel, oui, certainement, évidemment, mais en même temps, c'est sans doute pas inhérent aux émotions. Hein, je pense qu'il ne faut pas non plus réduire les émotions à un risque hein, et qu'elles peuvent être aussi une chance. En tout cas, c'est une idée que je vous soumets. Par exemple, au guichet que j'ai étudié, mais ça vaut pour tous les métiers de service très, très certainement, se protéger des émotions désagréables, d'asservissement, hein, ce sentiment d'être asservi par le client ou la peur des clients par le fait d'être dans la distance, en fait, hein, se couper de la relation pour s'en protéger, ben c'est aussi se priver des émotions positives qui sont véhiculées par la relation de service, c'est-à-dire le plaisir du contact, la reconnaissance surtout, hein, que les clients peuvent apporter. Et du coup, on peut se demander s'il n'y a pas en fait plus de risques à être dans le déni des émotions que à être affecté effectivement par les autres. En tout cas, voilà, ça peut être, voilà, il y a peut-être un intérêt à concevoir les émotions pas seulement comme un risque, mais comme une chance, à la fois peut-être pour la santé, hein, mentale de chacun, enfin, et une chance politique, c'est-à-dire aussi qui offre la possibilité d'un partage des émotions entre collègues, donc de la constitution de collectifs. Et des émotions que peuvent aussi se développer, des émotions critiques, des émotions de résistance, du côté donc des émotions réelles, donc au-delà en fait de ce qui est prescrit et attendu par l'organisation. Voilà, un petit peu. Léo et Noël.
Merci. Pas trop. On va passer place à la réaction de la salle. Il est 18h08. Hein? C'est bien. Donc voilà, vous avez encore le temps de parler. Hein, donc, allez-y. Hein.
Ouais. J'ai une petite question que je voulais, j'ai pas eu le temps de poser ce matin à Elena Rierata et qui se repose là avec l'intervention de Eftima Macridou, pardon. J'aurais voulu savoir où sont vos terrains d'EHPAD, sur les EHPAD et les aides à domicile, parce que c'est une vraie question que je me pose. Sur vos terrains, on a l'impression qu'il y a une grosse majorité de femmes racisées, et en l'occurrence, moi qui suis en province et qui travaille sur les mêmes terrains, on est sur des terrains où effectivement c'est à grosse dominance blanche, où il y a effectivement des personnes racisées qui subissent la même, ce que vous décrivez exactement, mais qui du coup n'est pas une expérience majoritaire parmi ces professionnels. Et donc voilà, c'est une question de situation de vos terrains, parce que du coup des fois on a l'impression que toutes les aides à domicile sont noires et donc ou sont racisées. Et j'ai tendance à penser que c'est pas du tout le cas partout, sur tous les territoires.
La journée porte sur Paris, ma belle.
Non, mais... Je voudrais rajouter la même remarque, parce que c'est pareil, la même chose sur l'hôtellerie, que les interventions qu'on a eues ce matin. Et effectivement, on avait déjà fait ce constat. Des enquêtes qui avaient été faites en région parisienne trouvaient ce type de résultats. Et... toi, tu as enquêté dans la région de Lille, moi aussi. Et moi, j'ai enquêté en Normandie. On n'a pas du tout ces résultats. Et je crois qu'effectivement, c'est lié au marché du travail très spécifique et au fait aussi que la région du Nord et la région normande, la vallée de Seine, sont d'anciennes régions ouvrières, mais voilà, qui ont perdu toute leur activité ouvrière. Et donc, du coup, il y a une classe ouvrière qui est relativement importante, qui est au chômage, quoi. Juste une petite, la même remarque.
Oui, ceci dit, ça doit se retrouver autour de Lyon, Marseille, etc. C'est des grandes métropoles, hein, quand même. Moi, je ne vais pas intervenir sur les émotions, puisque Aurélie l'a très bien fait, mais plus sur la question des rapports sociaux et la naturalisation. Et je me dis que dans plusieurs interventions... on a effectivement la construction en fait de la naturalisation des rapports sociaux, mais il faut quand même peut-être revenir à cette notion de rapports sociaux, hein, qui traditionnellement met en scène deux groupes sociaux qui s'affrontent autour d'un enjeu, et en l'occurrence, donc on le voit bien, hein, c'est des enjeux d'exploitation, hein, puisque c'est là-dessus des enjeux qui croisent, hein, donc aussi bien des rapports de domination que d'oppression. Et là-dessus, il me semble que quand on regarde ces rapports sociaux réduits finalement à un périmètre très individuel, hein, dans un, que ce soit entre je veux dire, une patronne et une domestique, ou bien dans le service à la personne, je pense qu'on a, on ne peut pas le comprendre si on ne l'intègre pas dans un rapport social. Social, c'est-à-dire c'est au niveau de la société, ce n'est pas au niveau individuel. Qu'au niveau individuel, on puisse traduire les effets sociaux, ça c'est certain, qu'on puisse même en saisir la pertinence. Mais pour les saisir, pour les comprendre vraiment, il faut revenir au niveau de la société. Et du coup, je pense que la remarque faisait Colette, je crois, sur la hiérarchisation de la société de l'île Maurice est finalement un point d'arrivée qui permet peut-être de comprendre beaucoup mieux les rapports presque individuels patronne-salarié, parce que ça remet en perspective la notion de rapports sociaux au niveau de toute la société. Je pense que c'est peut-être aussi ce travail-là qu'il faut qu'on arrive à faire, à sortir des terrains pour aller sur les questions théoriques et du coup le ressaisir après des terrains avec ce nouveau regard.
Je ne veux pas monopoliser, j'ai parlé plus tôt, mais ça va être rapide. Justement, Colette, c'était très intéressant, je trouvais, parce que quand on étudie la délégation des tâches domestiques par des femmes à d'autres femmes et qu'on parle d'un rapport de classe, et que vous parlez justement donc de passage, ben, de justement de, des rapports, en tout cas c'est une hypothèse, là, mais de rapports de domination basés sur la race à des rapports de domination basés sur la classe, avec la transformation de la société ou les catégories qui font appel, des groupes sociaux qui font appel au travail domestique, au service domestique, changent, hein, avec les transformations de la société. Donc, c'est ça, c'est vraiment de revenir, je trouve la remarque très intéressante aussi. Et pour, bon, c'est pas pour défendre ma paroisse, comme on dit au Québec, mais bon, l'étude de François Aubry et collègues aussi, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et qu'on devrait le faire dans tous les milieux de travail, en fait, d'étudier les processus de sélection pour comprendre comment ils sont empreints, traversés par des rapports de domination, et pourquoi aussi, pourquoi on veut, et là c'est dans le sens d'une, justement pour ramener toute la question de matériel, de l'exploitation, du travail, de la dévalorisation, etc. Pourquoi on veut ça? Qu'est-ce que ça donne concrètement? Ça enrichit qui d'avoir un personnel qui a la vocation? Ça sert à qui? À quoi? À qui? Donc, revenir aux rapports sociaux, effectivement, et à leur matérialité aussi.
Juste une petite question, je me lance sur les clowns parce que je suis plutôt anti-clown, ils me font peur depuis que je suis toute petite, mais je me lance quand même. Juste une petite question. Est-ce qu'il y a peut-être aussi un rapport salarial, je vais peut-être dire une bêtise complète, hein, un rapport salarial avec l'association Le Rire Médecin et des contraintes qui pourraient venir, un rapport social qui pourrait venir de là sur l'activité des clowns, parce que vous avez parlé que de leur intervention sur leur lieu de travail, et est-ce que c'est une relation plus triangulaire qu'elle n'en a l'air?
Si moi aussi je peux me permettre une petite question, vous avez beaucoup parlé aussi, depuis ce matin d'ailleurs, beaucoup parlé de qualifications par rapport à ces personnes qui sont quand même issues de l'immigration. Et j'ai peu entendu parler de déclassement, quoi. Ces gens-là ne sont pas forcément qualifiés pour ce type de travail-là, mais c'est souvent des personnes qui ont plein de qualifications dans d'autres... Voilà, donc on parle beaucoup de qualifications dans ce métier-là et pas... de déclassement, et voilà, du coup, ça me met toujours en colère, donc c'est comme ça. Pour l'intersectionnalité, Colette, donc vous avez commencé par dire que je ne vais pas forcément parler de l'intersectionnalité, alors qu'on voit bien que l'île Maurice, avec tout ce que vous nous racontez, vous êtes en plein dedans. Donc du coup, cette histoire de rapport maintenant qui se passe dans cette ancienne colonie entre d'anciens colonisés, je pense qu'à ce niveau-là, c'est encore par le croisement des rapports sociaux qu'on peut le comprendre, parce que le risque, c'est de croire que finalement, les anciens colonisés sont encore plus exploitants que les autres, puisque c'est ce que les gens vont vous dire, hein, que par exemple, les femmes haïtiennes vont vous dire, par exemple, que les hommes français sont plus gentils que les maris haïtiens, que finalement, plus les patronnes sont riches, moins elles sont méchantes, etc. Donc, en réalité, souvent, on invisibilise un rapport social, on en instrumentalise un autre, et finalement, on perd...
on perd la compréhension de la réalité, et malheureusement ça se trouve aussi dans le discours des personnes qu'on questionne, quoi. Donc ça, c'est une petite piste. Et puis toujours encore le rapport Nord-Sud, quoi. On a parlé beaucoup de colonialité. Contrairement à ce qui se passe dans certaines recherches, les personnes, quand on leur parle, elles rappellent toujours cette question de colonialité, d'esclavage, etc. Donc cela nous appelle peut-être à parler encore plus des rapports Nord-Sud dans l'analyse des relations de service. Et puis bien sûr de la mondialisation néolibérale, quoi. Mais bon, je pense qu'il y a tout un chantier à ce niveau-là. Je vous passe la parole.
Je voulais juste poser une dernière petite question. Je voulais juste savoir qui paye les clowns. Comment ils sont payés?
Ah oui, c'est vrai. C'est une vraie question, ça. Ah oui, 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 oui. Qui commence?
Je peux. Bon. Bon. Sur où on a fait l'enquête, j'ai déjà dit que c'était en Île-de-France, c'était Paris et les banlieues limitrophes. En fait, c'est pas une particularité. On a les mêmes choses, par exemple, Nakano Glenn sur l'histoire du Caire aux États-Unis. Elle est en train de noter les mêmes choses là où il y a vraiment une présence grande de migrantes. Le Caire est racisé. Donc voilà, pour moi, c'est tout à fait intéressant de voir comment on est en train de raciser un secteur, voilà, parce que tout simplement il y a plein de.
Il y a un biais parisien sur la question. Il
faut toujours rappeler.
En France, alors après.
Non, mais j'ai rappelé, non, je l'ai dit, c'était au début de ma communication, voilà, que c'était en Île-de-France. Deuxième chose. Sur les rapports sociaux, etc. Malheureusement, j'avais pas assez du temps pour développer cette côté-là, mais j'ai fait pas mal de travaux sur les itinéraires des employés dans les différents secteurs, branches du secteur du Caire. Donc, c'est très intéressant. Moi, je dis que c'est comme le jeu des serpents, le jeu pour les enfants. Donc, chaque fois, tu essayes de se sortir et d'arriver au final. Mais non, il y a toujours un serpent qui s'appelle classe, un serpent qui s'appelle race, un serpent qui s'appelle genre. Et tu te retrouves toujours au début du jeu. Et c'était très intéressant parce que c'était les mêmes choses. Bon. Des itinéraires complètement différents, des classes populaires, des migrantes, des migrantes déqualifiées, déclassées, etc., qu'elles ont essayé de différentes manières, avec des événements complètement différents dans leur vie. Et on voit la même chose, qu'elles ne peuvent pas sortir de ça, que leur maman faisait les mêmes choses ou leur tante faisait les mêmes choses. Et toujours, même si on essaye d'être... de sortir par la professionnalisation, si on essaye de se pas aller dans la santé, etc. Toujours, on tombe dans le même dans le même trou. Et en même temps, c'est intéressant comment, même dans cette situation-là, le sens du service change. C'est-à-dire, comment on peut jouer si vraiment on donne d'aide ou si cette aide est ambivalente dans les relations du service. Même ça, c'est important. C'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est un endroit où se jouent vraiment les rapports sociaux. Voilà. Et, oui, je pense que je vais passer aux autres.
Tu veux parler maintenant, quand même?
Allez. C'est lourd. Moi, j'ai peur de dire des bêtises maintenant parce que je suis un peu fatiguée. Mais de toute façon, pour rebondir à vos remarques, que l'objectif de ma démarche, c'est bien de revenir sur une perspective historique pour historiciser les rapports sociaux, de matérialiser le rapport de race aussi, puisqu'on l'utilise souvent dans sa dimension idéologique plus que sur la dimension matérielle, comment ça se produit dans le travail. de contextualiser aussi les enjeux des services domestiques qui ne sont pas forcément peut-être les mêmes dans les pays occidentaux et dans des pays anciennement colonisés. Ça se traduit pas forcément de la même manière. Voilà, en gros. Et du coup, si on fait toutes ces démarches-là pour chaque rapport social, c'est difficile de traiter de l'intersectionnalité dans une communication de 20 minutes. Donc,
Merci.
Comment sont payés les clowns par l'association qui est financée par les dons des particuliers et un petit peu de subvention publique. Mais il n'y a pas de lien marchand avec l'hôpital. L'hôpital ne paie pas le service. Bon, bah, question d'intersectionnalité. Oui, sûrement que voilà, ça peut se lire à travers comment les clowns s'intègrent dans une organisation hiérarchisée et en même temps, ils souhaitent aussi garder cette position en marge. Il y a une autre dimension du métier que j'ai pas abordée. Que c'est un métier très féminisé en fait, alors que le métier de clown est plutôt sur scène un métier investi par des hommes, puisque enfin, le personnage est une représentation plutôt masculine du personnage. Et comment ils se définissent? Alors ils se définissent comme des artistes et surtout pas comme des thérapeutes. C'est peut-être une manière aussi de pas être complètement au service de l'hôpital, de garder une autonomie dans leur définition et dans leur travail. Sur les corps indisciplinés, souvent ils se définissent aussi comme des électrons libres et en fait leur déplacement reste quand même assez réglementé dans l'hôpital. Ils respectent tout à fait l'accès aux chambres qui leur est donné ou quand ils sont écartés, ils respectent tout à fait les consignes. Et c'est une vraie question de savoir est-ce qu'ils sont assimilables par l'hôpital. En fait, j'ai pas la réponse et je pense que c'est vraiment quelque chose qui constitue la définition de leur métier.
Je suis seule. trois points. Sur l'ethnicisation, vous avez posé la question pour la France. Est-ce que c'est pas dans les grandes villes qu'il y a le plus d'aides soignantes qui sont issues de l'immigration? C'est la même chose au Québec, c'est à Montréal qu'il y en a le plus, c'est 20% de déposés issus d'immigration, ils se retrouvent quasiment tous à Montréal ou à la ville de Québec. Mais ce qui est intéressant, peut-être pas ici en France, ça ne se fait pas, mais au Québec, il y a des demandes de la part des employeurs publics à faire en sorte que le ministère de l'immigration du Québec puisse attirer les nouveaux immigrants à venir travailler en région que préposé. Alors ça prouve à quel point, dans ces structures-là, on considère que le personnel immigrant pourraient faire l'affaire, même si souvent, vous avez raison, ils sont déclassés. C'est-à-dire, c'est des infirmiers, des infirmières, même des médecins parfois, qui vont venir faire tout ça. L'autre point, c'était le rapport de domination au niveau de processus de sélection, ça enrichit qui? Ça enrichit beaucoup, en tout cas, le ministère au niveau du Québec. Ça leur permet de ne pas rendre obligatoire le diplôme et de ne pas non plus augmenter les salaires pour les faire poser bénéficiaires. Donc, eux, ça leur permet de ne pas avoir à rentrer là-dedans. Considérant le vieillissement de la population, il y a un enjeu majeur au niveau du financement et ça leur permet de ne pas rentrer là. Le troisième point, c'est le rapport aux émotions qui avait été mentionné tantôt. Le fait qu'on sait que le collectif de travail a beaucoup d'importance dans la résolution des problématiques d'émotion. C'est un vecteur de régulation des émotions pour les préposés aux bénéficiaires que d'avoir un collectif de travail qui est solidaire, en tout cas socialisateur. Or, la précarité chez les aides-soignantes, mais aussi chez les préposés, en tout cas de ce que j'en sais du secteur public, c'est que ça fragilise les collectifs de travail et ça provoque la difficulté à pouvoir tenir face à l'émotion, aux problématiques d'émotion. Donc, voilà.
Ah oui, oui, bien sûr, on a oublié la conclusion. Donc, on remercie toutes les personnes qui ont participé à cette discussion, soit ici ou en face. Et bravo, hein.